Bienvenue, voici les grandes lignes de l'actualité francophone et comme chaque semaine, c'est avec les médias francophones publics, RFI, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. Et on va commencer en France où le gouvernement annonce des mesures plus restrictives face au coronavirus. Certains hôpitaux français se préparent d'ailleurs à accueillir des malades pour une éventuelle deuxième vague, Eric Delvaux.
Oui, c'est le cas à Marseille où l'hôpital a ouvert une petite vingtaine de lits supplémentaires, spécialement dédiés aux malades du Covid. On n'avait pas vu ça depuis le pic d'avril dernier.
Les inquiétudes de la France, les craintes aussi du Canada, les statistiques interpellent les autorités de la santé publique depuis quelque temps, Benoît Audet.
Oui, le nombre de cas augmente lentement, mais sûrement depuis quelque temps, et certains experts voient poindre une deuxième vague.
En Suisse, Joël Marchetti, c'est la question des tests de dépistage qui a émergé cette semaine.
Oui, la Suisse teste moins, voire beaucoup moins, que bon nombre de ses voisins. Des spécialistes ont dit leur inquiétude cette semaine.
Le virus qui vient perturber les discussions politiques en Belgique. Jacques Remers, les responsables politiques négocient depuis plus de 15 mois la formation d'un gouvernement fédéral, mais ça ne se fait pas sans mal.
L'un des deux préformateurs a en effet été testé positif au coronavirus. Du coup, c'est l'ensemble des négociateurs qui est contraint à la quarantaine.
Enfin, sur le continent africain, ce sont surtout les inondations qui font parler d'elles ces derniers jours. Dans la bande sahélienne amélitulée, plusieurs pays ont été particulièrement frappés.
Un phénomène récurrent chaque année pendant la saison des pluies, mais cette fois, pour beaucoup d'habitants, c'est du jamais vu. Au moins 750 000 sinistrés en Afrique de l'Ouest.
Le gouvernement français vient donc d'annoncer une série de nouvelles mesures plus restrictives pour lutter contre le Covid-19 et en parallèle donc les hôpitaux prennent les devants pour prévenir de nouveaux afflux de malades. La preuve, par exemple à Marseille où la crainte d'une seconde vague a donné lieu à une nouvelle stratégie du côté des soignants. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Mathilde Vinceneux.
Les hôpitaux universitaires de Marseille disposent de 120 lits de réanimation dont 25 actuellement occupés. Occupés par des patients Covid. L'objectif, c'est donc d'augmenter la capacité de prise en charge. Jean-Olivier Arnaud, directeur général de l'APHM.
Nous avons prévu des recrutements d'infirmiers depuis une quinzaine de jours que nous sommes en train de former pour les soins Covid critiques. Dans les 15 jours, nous pourrons disposer de 17 lits supplémentaires et nous avons augmenté notre capacité de traitement des urgences pour faire en sorte que tous les patients soient reçus dans les mêmes conditions, Covid et non Covid.
L'enjeu est là, éviter que les patients Covid ne prennent toute la place, ne pas être obligés de déprogrammer des opérations, de fermer des services pour les transformer en unités Covid comme c'était le cas au printemps, le professeur Dominique Rossi.
Aujourd'hui, notre stratégie est de maintenir l'accueil des malades qui ne sont pas Covid, d'autant plus que ces malades, au moment de mars, avril, mai, n'ont pas pu avoir l'attention qu'ils méritaient. D'abord parce qu'ils avaient peur du Covid et ils ne consultaient pas. Et nous étions complètement débordés par le Covid. Donc on veut à tout prix éviter cette situation.
Pour ça, le professeur Rossi insiste, il faut continuer à respecter rigoureusement le port du masque et le lavage des mains régulier.
Voilà donc pour ce reportage à Marseille. Le Canada a connu un été relativement tranquille sur le front du virus. De façon générale, les Canadiens ont pu profiter de la belle saison à peu près normalement après un printemps marqué par le confinement et par les restrictions de toutes sortes. Cela dit, Benoît, le nombre de cas est en hausse depuis maintenant quelques semaines.
Oui, la plupart des régions du pays ont vu leur bilan s'alourdir. On est loin encore des chiffres du printemps, mais avec la réouverture de l'économie et des écoles, la transmission demeure bien présente dans les communautés.
Oui, cela dit précisément, et contrairement à la première vague du printemps, ce sont les plus jeunes qui semblent touchés maintenant.
Oui, ils sont beaucoup plus nombreux en proportion à attraper le virus. Au printemps, ce sont les foyers de personnes âgées qui ont été frappés de plein fouet. Ce qui est tout de même encourageant présentement, c'est que le nombre de décès est très peu élevé. Même chose dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs ne débordent pas, du moins pas encore.
Oui, mais malgré tout, certaines provinces prennent déjà des mesures pour endiguer une possible deuxième vague. Certains, Benoît, n'hésitent pas à reculer, à resserrer la vis.
Oui, comme la province de la Colombie-Britannique sur la côte ouest, elle a ordonné la fermeture des boîtes de nuit. Les bars et les restaurants sont aussi soumis à de nouvelles restrictions. Le Québec, lui aussi, serre la vis aux récalcitrants. Il y aura désormais des amendes imposées à ceux qui refusent de porter le masque dans les endroits où c'est obligatoire. Donc, on le sent ici, après un été marqué par une certaine insouciance, la fin de la récréation a bel et bien sonné.
Et la fin de la récréation pourrait aussi sonner en Suisse, Joël, en tout cas à propos des tests, parce que la Suisse réalise relativement peu de tests dépistage du Covid.
Selon des chiffres recueillis cette semaine, la Suisse teste en effet moins que ses voisins européens. Chaque semaine, sur 1000 personnes, seuls 5 sont testés en Suisse, bien moins qu'en France ou en Allemagne, et même 3 fois moins qu'aux États-Unis. Cette faiblesse relative de la Suisse en matière de tests a suscité cette semaine un coup de gueule sur nos ondes de la part de Didier Pittet. Il est chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est aussi en France à la tête de la mission d'évaluation de l'exécutif sur la gestion de la crise du coronavirus.
Pour l'instant, en Suisse, je dois dire qu'on ne teste pas assez. Aujourd'hui, je pense que la Suisse doit, je dirais presque, se réveiller par rapport aux tests diagnostiques, aux tests de dépistage, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont développés et certains pourraient être utilisés à certains moments, d'autres à d'autres moments.
Et tandis que certains pays ont pris des initiatives agressives pour inciter leur population à se faire diagnostiquer, en Suisse, les tests se déroulent essentiellement dans les structures médicales traditionnelles et concernent presque exclusivement les personnes symptomatiques. Des spécialistes appellent à un changement de stratégie en adoptant un autre type de test, plus rapide et plus simple, qui permettrait d'augmenter la capacité de test. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il dit travailler justement pour augmenter le volume des tests disponibles.
En Belgique, à présent, on teste plus aujourd'hui qu'hier, y compris d'ailleurs dans la sphère politique, puisqu'on tente toujours de former un gouvernement fédéral après les élections qui ont eu lieu en mai 2019. Ça fait donc déjà 15 mois. Mais au moment où un accord semble à portée de main, Jacques, le nouveau grain de sable s'appelle précisément Covid-19.
L'incident illustre bien la difficulté à former un gouvernement fédéral issu des urnes, une équipe qui prendrait le relais de l'actuel gouvernement minoritaire qui, lui, joue les prolongations. Car en effet, après des mois de discussions, d'échec en échec, les négociations semblent enfin pouvoir déboucher sur une possible majorité. Cette coalition Vivaldi, car elle rassemblerait 4 familles politiques comme les 4 saisons du compositeur italien, a même été rebaptisée la coalition Avanti, en avant. Sauf que l'un des 2 préformateurs libéral flamand a été testé positif au coronavirus. Bref, un nouveau stop dont on se serait bien passé, car le temps presse, la Belgique a besoin d'un vrai gouvernement capable d'initier et de mettre en œuvre un plan de relance de son économie.
Ouais, et conséquence pratique de ce test positif, l'ensemble des négociateurs et le roi aussi ont été testés et ils ont été placés en quarantaine.
Et dès lors, les agendas ont dû être réaménagés. Plus question de se voir en présentiel pour discuter, négocier. C'est le téléphone ou la vidéoconférence. Et pour le traditionnel rapport des 2 préformateurs chez le roi, ce vendredi, il a fallu laisser les berlines au garage. Pas question de prendre des risques sanitaires. En attendant, les préformateurs ont été prolongés dans leur mission jusqu'au 21 septembre. Et il n'y a toujours ni formateur, ni formatrice d'un nouveau gouvernement, même si l'objectif déclaré est d'aboutir le 1er octobre.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
On va se quitter cette semaine sur le continent africain avec vous, Amélie. Au moins 750 000 personnes ont vu leur logement partiellement ou totalement détruit en Afrique de l'Ouest ces derniers jours à cause des inondations.
Oui, dans plusieurs pays ouest-africains, en ce moment, c'est l'hivernage, la saison des pluies. Pluies parfois diluviennes qui font monter les cours d'eau jusqu'à provoquer des crues. Dans plusieurs capitales comme Dakar, Niamey, N'Djamena, des quartiers sont complètement inondés. À chaque fois, les habitants racontent n'avoir jamais vu l'eau monter si haut. Et si on prend l'ensemble du continent, Olivier, jusqu'au Soudan, dans l'Est, c'est 1 million de sinistrés par les inondations cette année et environ 200 morts déjà recensés.
Et pourtant, Amélie, ces inondations, elles sont prévisibles puisque chaque année, les mêmes problèmes se posent.
Et tout le monde parle d'un phénomène qui risque de s'amplifier avec le réchauffement climatique, des pluies de plus en plus abondantes. Et la désertification provoque l'ensablement d'un fleuve comme le Niger. Sa capacité diminue, le seuil d'alerte est donc plus rapidement atteint, le cours d'eau a plus de risques de sortir de son lit. L'enjeu depuis des années pour les gouvernements, c'est la gestion de ce risque, anticiper, alerter, construire des digues efficaces et gérer le développement urbain. Encore beaucoup de logements sont construits dans des zones inondables. Une ville comme Niamey compte cette semaine au moins 50 000 personnes à reloger. Elles sont pour le moment accueillies dans des écoles ou chez des proches.
Merci Amélie Tullet pour RFI et merci à tous. C'était les grandes lignes de l'actualité francophone avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine à la même heure.